Bonjour, dans un instant va commencer l'émission Dans mon tiroir. Pendant une heure, c'est vous qui avez le pouvoir grâce au site radio-g.fr. En effet, à tout moment, vous avez la possibilité d'appuyer sur un bouton stop situé sur le site radio-g.fr. Si une chronique vous ennuie ou que vous la trouvez trop longue, stoppez-la de chez vous avec un simple clic. Dans le studio, nous entendrons alors ce jingle. On devra alors changer de sujet. Au contraire, si le sujet est intéressant et que le chroniqueur peut le finir, il aura droit à ça.
C'était vraiment très intéressant.
C'est donc vous qui, dans un instant, allez prendre le pouvoir. Pendant que l'équipe s'installe, rendez-vous de suite sur le site radio-g.fr et cliquez sur le bouton qui vous invite au vote. Vous pouvez aussi aller sur le chat pour parler avec nous, anonymement et simplement pendant l'émission. Nous voyons en direct vos messages. Prêt à prendre le pouvoir, c'est à vous de jouer sur radio-g.fr.
C'était vraiment très intéressant. C'était vraiment très intéressant.
L'équipe de Dans mon tiroir est en train de s'installer. Ils seront bientôt prêts à vous soumettre leur chronique. Ce sera à vous de les juger en direct, voire même de les faire taire.
C'était vraiment très intéressant.
Bonsoir et bienvenue dans Mon Tiroir, l'émission qui a des choses à vous dire. Par contre, sont-elles toutes intéressantes? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ce soir avec cette émission interactive où vous pouvez donner votre avis, donc de chez vous, en temps réel, sur le site radio-g.fr. 13e émission en direct. Bonsoir Joe qui réalise cette émission.
Bonsoir Bruno.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Bonsoir Florian.
Bonsoir.
Et c'est tout.
Bon, tout le monde. Où sont les femmes?
Ben, je ne sais pas. En ce moment, elles restent toutes à la maison. On les embrasse.
Oh.
Ben, c'est vrai en plus.
Pour la cuisine.
Et c'est ça, il faut
stopper
cuisine.
Tout de suite, il faut stopper là.
Fermez-la, les gars.
Bon, allez, tout le monde est sur le site radio-g.fr. C'est
oui,
bon?
Oui, oui,
là aussi, vous, parce que vous pouvez voter aussi, hein. Donc là, de chez vous, vous allez sur le site et vous allez voir qu'il y a un petit bouton jaune, là, où vous pouvez cliquer pour accéder au vote. Et pendant les chroniques, vous allez pouvoir faire stop si jamais la chronique vous gonfle. Allez, ben, c'est parti. Bienvenue dans mon tiroir. Ok, on va commencer avec Olivier. Dans ton tiroir, qu'as-tu trouvé?
Dans mon tiroir, j'ai trouvé pas grand-chose.
Ok, ah bah, ça commence bien cette émission, moi je dis.
Non, comment je peux faire le lien? Non, je veux parler d'une série en fait.
Ah, t'as trouvé, d'accord. Bah, une télécommande quand on dit ça.
Voilà. Une télécommande, voilà, voilà. Que j'avais égaré. Et puis, je me suis mis sur France 2. En fait, France 2 a diffusé en novembre 2023 une mini-série de 6 épisodes qui s'appelle Sambre. Je ne sais pas si vous avez vu Sambre.
Non. Non.
Alors, ça me dit quelque chose, j'avais vu passer le...
C'est français, petite c'est... série, en fait, la série s'inspire de l'affaire du violeur de la Sambre. Alors la Sambre...
Oh là, bah c'est léger comme...
La Sambre, c'est une petite rivière qui coule dans le Pas-de-Calais et qui va de la France jusqu'en Belgique. C'est quand même l'histoire du plus grand prédateur sexuel qu'a connu la France, puisque Dino Scala, il faut l'appeler par son nom, a agressé sexuellement 56 victimes entre 1988 et 2018, donc pendant 30 ans, donc autour de la Sambre, entre la France et la Belgique. Donc la série, elle a été faite par Jean-Xavier de Lestrade, qui est un documentariste, et dans une interview, il a dit que raconter l'histoire de Sambre, c'est montrer à l'aveuglement d'une société sourde aux plaintes des victimes, sans cesse renvoyées par les institutions à leur sentiment de honte et de culpabilité. Raconter Sambre, c'était rendre compte de la lente évolution d'une société à qui il a fallu des décennies pour enfin prendre conscience que la criminalité sexuelle était un fléau qui traversait et gangrenait toutes ses strates, et dont les femmes et les enfants étaient les premières victimes. Alors, effectivement, c'est assez fort hein, comme série. On commence en 88, où le viol était quasiment une honte. Même les femmes qui allaient à la police nous avaient à peine avoué qu'elles avaient été violées. C'était juste, j'ai été agressée. Mais dans le film, on voit une femme en fait qui va mettre 30 ans pour enfin s'avouer à elle-même, même à elle-même, qu'elle a été violée, qu'elle a été souillée par ce mec. Même les policiers, ils n'étaient pas formés pour aider les femmes qui venaient porter plainte. Et même, c'était même pas des plaintes. En fait, on faisait faire des mains courantes plutôt que des plaintes. Alors, je ne sais pas trop les différences, mais au final, il y avait moins de paperasse dans une main courante que dans une plainte.
Il n'y a pas d'enquête, hein,
main courante. Il n'y avait pas d'enquête, voilà. Et ça a duré pendant 30 ans.
Moi, je trouve ça très drôle que pour une histoire de viol, on fasse une main courante.
Celle-là, tu vois, je ne voulais pas la faire.
Pourtant, tu vois, là, pour moi, il faut l'assumer.
C'était ça, 88. Même l'idée, c'est que le violeur était forcément un marginal, un étranger ou un fou. La police était persuadée de ça, et même les psychologues à l'époque étaient persuadés que c'était un marginal, un solitaire, un type paumé. Et en fait, non. L'horreur, c'est que le violeur, en fait, était un père de famille, entraîneur de foot, jovial, ami de tout le monde, et même, ce qui est effarant, il avait ses amis au sein de la police, au sein des gens qui enquêtaient même sur l'enquête. Il y a deux faits marquants dans la série, moi, qui m'ont scotché. Une histoire vraie, c'est vraiment tiré d'une histoire vraie. À un moment donné, donc, il est ami avec les flics, il va dans le commissariat et il se rend compte qu'il y a un portrait robot. C'est son propre portrait robot.
Et qui lui ressemble.
Et il va voir les flics et lui dit, vous avez vu le portrait robot? On dirait que c'est moi, c'est marrant, quoi.
Ah ouais.
Et c'est vraiment une histoire vraie, quoi. Enfin, c'est vraiment arrivé, hein. C'est vraiment.
D'accord. Voilà. C'est un psychopathe, de toute façon.
Vraiment psychopathe. Bah, littéralement. Alors, moi, ce qui est le truc, alors je spoil un peu, désolé. À travers chaque épisode, des 6 épisodes, on suit le point de vue d'un personnage. Donc, on va suivre le violeur, la victime, on suit aussi le juge, un commissaire, et puis aussi une scientifique. Et là, c'est l'épisode qui m'a entièrement scotché. Donc, c'est une scientifique qui fait un petit peu d'analyse géographique, qui une science qui allie la géographie et les mathématiques, à partir des endroits où les femmes ont été violées, à partir de l'heure où elles ont été violées. Elle peut déterminer avec précision d'où est-ce qu'il est parti, le violeur. Alors, ah oui. Partir peut-être de son travail ou peut-être de chez lui. D'accord. Et à un moment donné, on va voir dans la série, dans l'épisode, elle réussit à retrouver, mais quasiment à 100 mètres près, elle arrive quasiment dans la zone pavillonnaire où il habite, quoi. Et elle se dit, je ne comprends pas, c'est une zone, il y a des familles, là, tout le monde me dit que c'est un marginal, mais je suis sûr qu'il est là. Et même, on la voit qui, en fait, à un moment donné, il passe devant elle dans un bar et tout. Et c'est impressionnant parce qu'en fait, c'est un juge qui a décidé, qui lui a demandé de faire une enquête. Mm-hmm. Et en fait, son rapport, il est mis aux oubliettes, comme ça, il est archivé dans les archives, quoi. Et c'est ça, en fait, c'est assez révoltant parce qu'on voit en fait au final qu'il y a une incompétence mais à tous les niveaux, aussi bien de la police, de la justice, il y a très peu de coordination. On le voit notamment à travers la police belge et française. Il a sévi malheureusement sur deux territoires, deux pays. Là, il y avait un manque de coordination. Aussi, voilà, un problème administratif. Il y a les juges qui passent, des juges qui sont débordés de dossiers et tout, et qui petit à petit classent peut-être un peu trop vite ces dossiers. L'inconvénient aussi, c'est qu'il avait arrêté de violer les femmes pendant plusieurs années, pendant 4-5 ans. Et en fait, on n'a pas réussi à faire le lien entre les meurtres des années 90 et les meurtres des années 2000. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mec... Alors, il a été pris, je vous dirai pas comment il a été pris dans la série, dans la vérité, et actuellement, il purge une peine de prison de 20 ans. Voilà.
Ok.
Et c'est le plus gros, alors pas serial killer, mais prédateur sexuel.
Donc la série est terminée, la diffusion.
Elle
est en replay, c'est ça?
Ça a été un gros carton sur France 2. Il y a eu 3 millions de personnes qui l'ont regardé. Pour France 2, c'est très très bien. Et puis, il y en a même encore plus en streaming. On est quasiment actuellement à 4 millions de vues en streaming.
Ah oui.
La série, elle est visionnable jusqu'au 20 mai 2024. C'est vraiment une série assez implacable, assez incroyable. Alors, en acteur, vous avez Olivier Gourmet, Noémie Lovski, qui joue le rôle d'une mère, justement la mère du village, qui essaye d'alerter la population. Alix Poisson et Clémence Poésie. Alix Poisson, qui est incroyable, c'est la première victime de ce monstre, et on suit voilà son.
Il y a un épisode où c'est elle.
Et ça commence par elle, ça finit par elle, et c'est assez prenant. C'est vraiment une série qu'il faut voir.
Bon, eh bien écoute, c'est bon, ça passe.
C'était vraiment très intéressant.
On poursuit avec Joe.
Eh ben, j'hésite
un petit peu plus léger.
Moi j'ai dit plus léger. Pour une fois, j'ai bien bossé. J'ai deux sujets bien bossés. Mais en fait, il me fait penser à un truc auquel je voudrais parler. Je sais pas si j'en parle la prochaine fois ou j'en parle
la prochaine fois si tu l'as pas préparé. Faire ce que t'as préparé là.
Mais en cas de série, je tease juste la série qui vient de sortir, la série documentaire sur Squeezie, qui est sortie sur Prime Video, qui est exceptionnelle. Et il faudra
vraiment en parler la prochaine fois. T'inquiète pas.
Non, ce sera mieux si c'est bien fait. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu de société.
Oui.
Alors ça fait longtemps que je l'ai pas fait.
Et alors il l'a amené pour les auditeurs. Je dis voilà, il a amené une boîte.
Alors c'est plutôt pour vous que je vous ai ramené des trucs.
Bah oui, c'est pas pour les auditeurs.
Vous montrer un petit peu. Donc
oh, il y a des personnages.
Ouais, tenez, comme on est un petit communiqué.
Communiqué.
Qu'est-ce que c'est?
Alors attends, moi j'ai un cochon. Voilà. Ah, c'est des cochons.
C'est des cochons, effectivement.
C'est que des cochons.
Alors là, c'est, tu as deux cochons, là, tu as deux
cochons. Cochons avec une brouette.
Et donc, le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est La Forêt des Frères Grimm. Alors, je sais pas si vous connaissez.
Bah, les Frères Grimm, oui.
Alors voilà, c'est un jeu de société qui reprend les contes des Frères Grimm.
Ah, les trois petits cochons.
Notamment les trois petits cochons, et dans lequel nous sommes, alors, donc, dans l'histoire. Donc, ça, c'est des méchants. Cochons, donc, ça, c'est le grand méchant loup. Et à côté, c'est un dragon. Donc, en fait, c'est juste pour vous montrer. Les figurines sont très belles du jeu, et encore, on peut les peindre et tout. Moi, j'ai pas du tout les capacités pour le faire.
C'est vrai que là, elles sont grises unies.
Oui, voilà. Elles sont grises unies. Il y a juste un socle de couleurs pour savoir qui est le personnage. Et donc, du coup, alors, pour reprendre à la base, c'est un jeu qui se joue, de 2 à 4. C'est surtout fait pour penser 3 ou 4 personnes, et donc qui se déroule dans l'univers des frères Grimm, donc avec notamment les légendes des personnages, donc des trois petits cochons, mais aussi du grand méchant loup, des trolls, de Blanche-Neige, de tout ce que tu veux, voilà, tout ce qu'on connaît.
D'accord.
Et le concept de base, c'est nous sommes les descendants des trois petits cochons et on doit créer des maisons.
Ça se voit.
D'accord.
Voilà, ouais. On doit créer 3 maisons sur notre terrain.
Une en paille, une en terre, c'est ça?
Alors, pas nécessairement. En fait, il y a la possibilité, effectivement, de 3 matériaux. Paille, bois et briques, effectivement, comme le conte original. Mais en soi, pour gagner, tu dois faire n'importe quelle maison. Après, il y a plus d'intérêt à en faire de l'un que de l'autre.
D'accord.
Vous avez des lieux sur lesquels vous devez vous placer. Donc, il y a un champ de paille, un endroit, une forêt, une briquerie où pour récupérer de la brique et un autre lieu qui est le marché.
D'accord.
Et en fait, à chaque tour, vous allez décider où est-ce que vous mettez votre personnage? Tous en même temps, on choisit où est-ce qu'on met notre personnage.
Mais on a un tableau, il y a quoi?
Il y a un plateau. J'essaie de le faire résumer pour que ce soit pas trop long, mais sinon je vous aurais tout ramené, mais la boîte est assez grande. Tu as 4 petits lieux, donc c'est des petites cartes qui sont grandes.
D'accord, il y a un plateau, il y a quand même des choses dessinées.
Exactement.
D'accord.
Chacun a sa zone, mais là, il y a 4 petits plateaux dans lesquels tu dis, je vais sur cette zone-là. Donc
d'accord.
Tu as des cartes que tu caches, évidemment, et tu dis, bah, tout le monde retourne et, oh, bah, moi je vais là, moi je vais là. Quand tu vas sur une zone, tu récupères les ressources en fonction de la paille, du bois, de la brique. Ok. Ce qu'il faut faire, c'est que avec ça, tu dois construire des maisons. Et les maisons, c'est pour ça que aussi j'ai ramené.
Ah, il y a les petites maisons.
Voilà. Tu dois monter tes petites maisons. Donc tu as 3 parties de la maison. Donc tu as le socle. Attends, je te montre.
D'accord. Ah oui, il est en train de monter là.
Les murs.
Un peu comme des Legos, ça se met l'un au-dessus de l'autre.
Et le toit.
Oh, c'est mignon.
Ouais. Pour le coup, je trouve que il est vraiment sympa à prendre en main aussi.
D'accord.
Donc tu as 3 faces dans la maison. Et quel que soit le matériau que tu utilises, tu dois utiliser des ressources. Donc pour le sol, ce sera toujours 2, pour les murs, ce sera 4, et pour le toit, ce sera 6.
Mais comment tu fais pour avoir les ressources?
Eh ben pour les ressources, tu vas sur les lieux. C'est ce que j'ai dit. En fait, sur les lieux, il y a différents types de ressources. Si vous êtes 2 à aller sur le même lieu, vous devez vous partager les ressources. Donc vous allez moins vite. Donc en fait, tout l'intérêt du jeu.
Donc faut aller partout pour faire sa maison.
Voilà. Alors tout l'intérêt du jeu va être de faire sa maison le plus vite et essayer d'aller là où les autres ne vont pas.
Ouais, d'accord.
Donc c'est ça tout l'intérêt. Donc là en soi, ça c'est le truc de base, et après à chaque tour, vous allez pouvoir rajouter des malus ou des bonus, c'est-à-dire il y a des alliés ou des ennemis. Par exemple, là les figurines que je vous ai ramenées, il y a le grand méchant loup qui par exemple peut détruire une partie de ta maison
sur la
personne qui allait sur un lieu, etc.
Alors le but c'est quoi? C'est de faire une maison.
Le but étant de faire 3 maisons, quels que soient les matériaux que tu fais. Tu peux faire 3 pailles, tu peux faire paille brique, bois, etc. Et c'est des parties qui durent environ 60 minutes. C'est assez, c'est considéré. Vous pouvez commencer à jouer à 14 ans, mais beaucoup de gens disent que tu peux commencer à y jouer à 10 ans parce qu'il est très accessible.
D'accord.
Et pour le coup, je le trouve vraiment chouette. Il a une direction artistique qui est vraiment très très belle, que ce soit les cartes, que ce soit les cartons, donc les plateaux sur lesquels tu joues, les figurines. Vraiment, il est très très beau et je trouve que c'est un excellent jeu à faire à plusieurs, mais je vous conseille à 3 ou 4. À 2, c'est un peu moins bien fait, mais voilà.
Ah bah c'est cool, ça s'appelle comment du coup?
Donc ça s'appelle La Forêt des Frères Grimm.
La Forêt des Frères Grimm.
Et il coûte une 50aine d'euros.
Oui, mais en tout cas, c'est intéressant.
C'est très intéressant.
Okay.
C'est vraiment très intéressant.
Florian, alors, parle de quoi aujourd'hui?
Moi, dans mon tiroir, j'ai retrouvé une carte postale.
Qui date de?
De longtemps. tout ça pour vous parler des pays et de leurs drapeaux.
Ça faisait longtemps.
Oui. Faire tous les drapeaux en même temps.
Et oui, parce que je suis tombé sur un site assez intéressant qui s'appelle flagstories.co. Flagstories.
Le drapeau en anglais.
Les histoires de drapeaux. Okay. Voilà, c'est un site illustré en fait où c'est vraiment c'est des illustrations
de drapeaux
sur l'histoire des drapeaux et de leurs caractéristiques.
Ouais, je suis pas sûr que ça me passionnait ça jusque là.
Alors du coup c'est un peu des statistiques sur les drapeaux quoi. En gros.
Ah ouais.
Alors
voilà.
Donc aujourd'hui vous savez qu'il y a 193 pays qui sont reconnus par l'ONU.
Alors on savait pas mais on veut bien le croire.
Ben voilà, il y a 193.
C'est tout, 193. Dans le monde entier.
J'aurais dit plus.
Oui. J'aurais dit plus que ça, 193.
Qui sont reconnus par l'ONU. Après,
ah, d'accord, il y a peut-être des petites choses comme ça, ils se font de leur côté.
Effectivement. Donc, chaque pays a son drapeau. Et donc, le plus vieux drapeau daterait du 15e siècle, et ce serait celui du Danemark, qui est donc de quelle couleur ?
Rouge. Rouge et blanc.
Rouge et blanc.
Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de drapeau de pays. Il y avait des drapeaux de rois,
des pays
de
actuels, tout ça. En tout cas.
D'accord, ok.
En tout cas, des pays actuels.
T'avais des bannières.
Il y avait des bannières, des fanions, pas de drapeau, ça, mais pas quelque chose qui rassemble un pays entier.
Les royaumes avaient des bannières, des drapeaux, mais en tout cas.
Juste question, je sais pas si t'auras la réponse. Dans les 193, il y a les États aussi, ou il y a des, comme le Vatican, etc. Est-ce que c'est considéré comme des pays dedans ou pas?
Oui, le Vatican est considéré comme un pays.
Eh, mais du coup.
Drapeau français, bien.
Mais par contre, il n'y a pas les États américains, par exemple.
Non, pas les États américains, mais quand je disais Vatican, bien sûr, mais je connais Monaco, tu vois, qui sont.
C'est un pays reconnu par l'ONU, effectivement. Alors, donc le Danemark en premier, suivi par celui des Pays-Bas.
Ah, aussi. D'accord.
Voilà. Et ensuite, là, c'est vraiment à partir des années 50 que le nombre de drapeaux officiels va augmenter.
1950.
Alors, entre le 15e siècle et 1950, il n'y a pas tant que ça.
Il y en a eu
sûrement, mais.
Au 19e, à partir de 1800-1810, il y a des drapeaux qui arrivent.
D'accord.
Ah, mais il y a vraiment une croissance.
Il y a de plus en plus de pays, en fait, qui prennent leur indépendance.
Mm-hmm. Ah, oui.
Et des pays. Et à partir de 50, on est dans une phase de décolonisation. Et donc, il y a de plus en plus encore de pays qui prennent vraiment leur indépendance et adoptent leur drapeau officiel.
D'accord. Parce que pour l'Eurovision, c'est compliqué s'ils n'ont pas tous leur drapeau.
Ah, oui. Hein. Non, mais là, il y a ça. Alors, donc, la plupart des drapeaux ont des dimensions. Alors, en général, ils sont rectangulaires. Les drapeaux, la plupart des drapeaux sont rectangulaires.
Sauf certains.
Ah oui, lesquels? Il y en a qui sont pas rectangulaires.
Attends. Avec des dimensions 2/3. Donc, il y a 86 drapeaux qui ont des dimensions 2/3. Et ensuite, il y a 54 drapeaux qui ont des dimensions 1/2. Donc, ça reste rectangulaire. Effectivement, il y a deux drapeaux qui sont des carrés parfaits.
Et j'ai plus le deuxième.
Alors, il y a la Suisse, tu l'as dit, Joe.
C'est quoi l'autre? Parce que, effectivement,
mais. C'est un carré
1-1.
Il n'y a pas un triangle quelque part
Et le deuxième pays, c'est, tu l'as dit aussi tout à l'heure.
Bah, c'est le Vatican.
C'est le Vatican,
effectivement. Ah, si, j'avais un doute, putain, oui.
Qui est blanc et jaune. Voilà.
Et il est carré?
Il est carré.
Et il est carré aussi, d'accord, ok. D'accord.
Il est carré. Il y a un drapeau qui est triangulaire.
Ouais.
En tout cas, deux fois triangulaire.
Oui, c'est une sorte de
d'arbre. Voilà, effectivement, tu l'as, tu le reconnais.
C'est un pays d'Afrique, mais putain, c'est
pas du tout. C'est pas un pays d'Afrique. Un pays asiatique, oui. C'est le Népal.
Ah, putain, merde.
Ah, je pense que c'est le seul. Alors après,
beaucoup de remous en peu de temps, hein. C'est bien. Tu vas avoir des points. Hein.
Tous les autres drapeaux aussi avec des dimensions, entre le rectangle et le carré, mais en tout cas, c'est vraiment très varié. Hein.
Sur internet, sur le chat, on dit que le mât est important quand même aussi.
Non, c'est le mât lui-même qui dit que sans moi,
le drapeau sert à rien.
Comme on a pas souvent des gens sur le chat, là, on se dit, ah ouais, il y a quand même le mât de tous les drapeaux qui nous écoutent, c'est un sacré honneur.
C'est vrai.
Le mât est important, mais il peut jouer des tours.
Ah,
le mât et le vent du coup, mais je vous donnerai la.
Ah, je pensais qu'il y avait
l'anecdote.
Non, mais si, apparemment, on va attendre la fin de la chronique.
L'anecdote après, si ça vous intéresse du coup, si vous me gardez à l'antenne.
Toujours.
Alors, est-ce que vous savez
100%.
Est-ce que vous savez la couleur qui est majoritairement utilisée par les drapeaux?
Le blanc. Rouge.
Alors le blanc pour Bruno, le rouge pour Joe,
le bleu.
Et le bleu pour Olivier. Eh bien, écoutez, vous avez presque tous raison, puisque la couleur majoritaire c'est le rouge, suivi par le bleu, en tout cas des nuances. Alors, c'est des nuances de rouge, des nuances de bleu et le blanc.
D'accord.
D'ailleurs, la combinaison de couleurs la plus répandue.
Le blanc-rouge.
C'est le rouge, bleu et blanc. Dans l'ordre, effectivement, bleu, blanc, rouge. La majorité des drapeaux sont de ces trois couleurs-là. Mmh. Ensuite, il y a une combinaison de rouge, blanc. Mmh. Ensuite, vous avez une combinaison rouge, blanc et vert.
Ouais. Donc c'est le Brésil, tout ça, ou les...
Non,
rouge, blanc, vert, c'est
rouge,
la Hongrie.
Blanc, vert,
Hongrie, oui.
La Hongrie, par
Brésil,
exemple.
Brésil, c'est vert et... Enfin, c'est presque...
On prend toujours...
Que vert, il y a un losange...
Irlande, c'est pas ça?
Alors, pas forcément dans cet ordre-là, mais,
oui,
mais en tout cas, c'est
les couleurs, prédominantes. C'est ça,
c'est ça. Donc, l'Italie, effectivement, il y a la Hongrie, il y a le Mexique aussi, qui a ce couleur-là.
L'Irlande, c'est... Non, c'est...
Ici, il y a du orange
aussi.
Mais
c'est un orange. C'est considéré comme, effectivement... Ensuite, vous avez le rouge, vert, jaune. Alors ça, c'est principalement les pays africains qui ont ces trois couleurs-là.
Ils ont plus de soleil.
Et vous avez une combinaison à quatre couleurs, rouge, blanc, vert et noir. Et là, à votre avis, c'est quelle sorte de pays? En général, quand ces quatre couleurs-là, souvent...
C'est le Pacifique?
Non.
Rouge, blanc, vert?
C'est souvent les pays arabes.
Ah oui.
Ou en tout cas, où la présence de l'islam est assez forte, en fait.
D'accord.
Voilà, donc Moyen-Orient en général, plus un peu de bout d'Asie.
Mais c'est vrai que la couleur noire, à part pour Allemagne et Belgique, sinon. Attends, si j'ai dit une connerie.
Oui, c'est
bon.
J'ai eu
un doute dans
l'histoire.
Mais oui, sinon c'est très présent, mais on est pérable.
Alors, la majorité des drapeaux ont trois couleurs.
Ouais.
Ensuite, est-ce que vous savez le symbole qui est le plus représenté sur les drapeaux?
Oh, la monarchie, je pense.
Le symbole, est-ce que c'est une étoile, une croix, un oiseau,
ça doit être
pas.
Plutôt étoile. J'aurais dit couronne, mais ça doit
étoile.
Être plutôt étoile.
Ah, l'étoile, étoile, soleil, oui. Mais étoile, ouais.
Ouais, l'étoile. Voilà. Ouais.
Effectivement, c'est l'étoile qui a cinq branches, l'étoile classique qu'on connaît. Voilà.
Les États-Unis, déjà, ils en prennent pas mal.
Ils en ont déjà 50. Ils en ont déjà 50, mais souvent, chez les pays africains, vous avez une étoile au milieu.
Oui, c'est vrai.
Vous avez pas mal d'étoiles. Le croissant, lui, arrive à la fin. Enfin, il n'est pas très répandu.
Non, je crois que c'était le deuxième.
C'est la Turquie.
Et après, vous avez la croix, alors soit la croix scandinave, soit la croix. La croix anglo-saxonne, là, comme ça, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Au niveau disposition, du coup, est-ce que c'est horizontal ou plutôt vertical?
Je pense que la plupart sont horizontaux.
Horizontal.
La plupart sont des barres.
C'est à raison, horizontal peut-être.
Horizontal, effectivement. Il y a 52 drapeaux qui ont des barres horizontales, soit 3, soit 2. Et il y a 22 drapeaux qui ont des barres.
J'imagine chez lui sur le discours, il est en train de compter ses trucs pour faire sa chronique. Ou alors il y a quelqu'un qui a déjà fait ça.
J'ai plus espoir qu'il ait regardé sur un site qui répertorie ça.
J'espère pour lui, parce que sinon il a vraiment des soirées d'enfer. Hein.
Effectivement, j'ai un peu compté, non, mais le site est bien fait. Après, alors.
Tu as vérifié tes infos, de toute façon, tu as compté chacune des étoiles.
Tout à fait.
Il y a aussi des drapeaux des pays comme le drapeau basque, le drapeau.
Non, mais c'est pas des pays.
D'accord.
Du coup,
ils sont pas dedans, mais effectivement, si on reprend tous les drapeaux qui existent dans le monde, mais on a quand même des tendances de couleurs et tout ça. Alors, la petite anecdote que je vous ai
dit
tout à l'heure sur le mât et sur le vent, ça concerne le drapeau belge. Qui est de quelle couleur? Aujourd'hui.
Alors, noir, jaune et rouge.
Oui, mais jaune et rouge ou rouge et jaune? Non, jaune
noir,
et rouge.
Noir, jaune, noir, blanc, rouge.
Noir, jaune et rouge.
Noir, jaune et rouge.
On va vérifier.
Attends,
il y a du noir, il y a du rouge, il y a du blanc.
Bah, c'est comme l'Allemagne, mais de l'autre côté.
C'est Jean-Michel à peu près ce soir. Hein. Ils sont tous en train de regarder sur le téléphone.
Noir, jaune et rouge.
Noir, jaune,
c'est ce que
rouge,
j'ai dit. Hein, mais bon, personne ne m'écoute, moi je dis.
Mais apparemment, à l'origine, il était dans l'autre sens.
Ah bon, rouge.
Et oui, parce que
jaune,
quand il est avec le mât sur le noir, mais quand il y a du vent, du coup.
Ah, on voit pas le noir.
Bah, vous le voyez, vous le voyez dans l'autre sens.
Ah oui.
Et donc apparemment, selon les personnes qui ont décrit à l'origine le drapeau, et l'interprétation de chacun, finalement, le drapeau aurait dû être dans l'autre sens.
C'est vrai pour tous les drapeaux qui sont verticaux.
C'est vrai pour tous les drapeaux. Mais effectivement, les Belges, ils sont toujours à côté de la...
Alors ça, c'est pas gentil.
C'est pas gentil pour les Belges.
Bon, mais ils se sont arrêtés sur le noir en premier.
Pour toi, noir,
mais effectivement,
rouge,
ils se sont arrêtés sur le noir.
Bah, vaut mieux le plus foncé sur le côté du mât.
Oui.
C'est plus beau.
Mais je crois que dans la législation belge, il y a des incohérences.
Ils doivent avoir des références qui disent « Notre drapeau, il est de cette couleur-là. C'est pas bon, moi, je le vois comme ça. Et toi, moi, c'est l'inverse. »
Effectivement.
Pardon, mais... Et alors, la signification pour le belge
Mais par contre, sur le site flagstories.co, du coup, vous avez la signification des couleurs qui ne correspond pas forcément à la même chose pour tous les pays.
Mais non.
C'est-à-dire que le rouge, par exemple, majoritairement le rouge, ça veut dire le sang.
Oui.
Voilà. Mais ça veut dire plein d'autres choses aussi selon les pays. Alors, ça ne vous dit pas les pays qui sont concernés, mais ça vous donne quand même des significations.
C'est dommage que ça ne donne pas les significations
par
pays.
Parce que c'est un travail assez impressionnant de
recherche,
d'information et de...
En France, c'est assez simple.
Et de remettre ça sous forme un petit peu...
synthétique, sans faire de politique.
C'est
peut-être.
Ça.
Ouais.
Il n'y a pas du tout politique, du coup, c'est très factuel, c'est très des faits. C'est très bien fait.
Mais comme tu as des couleurs unies, exactes, et pas des symboles complexes, tu ne peux pas dire chacun, le bleu, ce sera toujours ça. Nous, on a associé à certaines choses, mais peut-être que d'autres, le bleu, le blanc et le rouge, ils l'utiliseront pas pareil. Donc, c'est vrai que tu peux pas faire pareil pour tout le monde.
En tout cas, sur Internet, ils avaient trouvé, bravo à Y qui avait trouvé le drapeau belge.
Il y a des pays qui ont changé de drapeau au cours de leur histoire.
Oui. Alors, il y a même une page où, par pays.
Il y a des drapeaux morts.
Par pays, pour le coup, ça montre combien de fois le pays a changé de drapeau.
Ah oui.
Alors, a changé volontairement ou pas. C'est-à-dire que, l'occupation nazie, par exemple. Ils ont mis le drapeau nazi.
Avec les colonies aussi qui s'en vont.
Effectivement, en fonction du pays, de la domination de tel pays à la période coloniale, ils ont changé de drapeau. C'est pas forcément de leur volonté, mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, le pays qui a le plus changé, c'est, je crois qu'il y a l'Afghanistan. Où il y a les États-Unis aussi qui ont changé pas mal de drapeaux. Bah forcément, au fur et à mesure des États.
Oui,
ils rajoutaient des étoiles.
Il y a une étoile qui apparaît.
Très bien.
C'est pas une
nouveau drapeau.
Eh ben voilà, c'est intéressant.
Oh là là, qu'est-ce que c'est intéressant.
Moi, je vais juste réussir à te bloquer sur un truc. Comment on appelle la science des drapeaux?
La vexillologie.
Ok, bien joué. Ah, c'est bien. Hein. Sur Internet, on dit que le président de la République a déjà modifié la nuance de bleu. C'est vrai, j'ai entendu parler de ça.
Ah ouais.
Oh, oui, là, le bleu a légèrement changé sur le drapeau français.
Mais quoi, plus foncé ou plus clair? Parce que
je
ne
sais plus,
dire.
Mais j'avais entendu j'avais parler de cette info.
Les trois bandes ne sont pas de la même largeur.
Ah bon?
Oh. Pont. Alors ça, ça vraiment.
Bah, t'es sûr?
Bah, ça sera sur une nouvelle chronique à ce moment-là. En tout cas, c'était très intéressant. Puis t'es arrivé à 25%. Non, c'est bien, ça marche. Bon, moi, dans mon tiroir, j'ai retrouvé ma télécommande de télévision.
Ah.
Malheureusement, elle était cassée.
Oh, à quoi ça t'a fait penser?
Oui, il y avait que le bouton 1 qui marche.
Ah merde.
Eh oui, du coup, samedi soir, j'ai dû regarder la Star Academy.
Oh.
L'occasion pour moi de me renseigner un peu sur cette émission phénomène. Les télécrochets, c'est vieux comme la télé, évidemment. Hein, mais le roi de la télé-réalité, John DeMol, à la tête de sa société Andemol, évidemment, y a ajouté le quotidien d'apprenti chanteur. Donc c'est après Big Brother, qui s'appelait Le Loft en France, hein, c'est la deuxième émission de télé-réalité la plus regardée au monde.
Ah oui,
il
n'y
a pas que chez nous.
C'était que français.
Eh non. Alors en France, c'est TF1 qui la diffuse pour la première fois en 2001, ça fait 23 ans quand même. Il y a eu 9 saisons, mais les dernières avaient perdu un peu de leur audience, hein, donc ça s'est arrêté. TF1 a arrêté, Énergie 12 a essayé de reprendre l'aventure, mais les moyens n'étaient pas vraiment les mêmes et c'est devenu très cheap, donc on a arrêté tout. En 2021, TF1 tâte le terrain avec l'émission 20 ans de Star Academy, et là, le vent est à nouveau dans le sens des audiences, donc en 2022 est relancé le concept dans le même château qu'au début, à côté de Paris. Ce château, d'ailleurs, qui vient d'être vendu, mais le bail dure encore 10 ans avec Andemol, donc on va encore bouffer du château de Mérénélis. Pour l'anecdote, la saison 9 avait déménagé dans le Marais, à Paris, donc d'un hôtel particulier, et la saison 10, qui était sur Énergie 12, dans un autre château qu'Amérénélis. L'émission se décline aussi donc à l'international, avec en 2002 une première et unique fois en Belgique. Et le directeur, c'était Plastique Bertrand.
Plastique Bertrand pour la Starac.
Ouais, c'était le directeur, ça change.
C'était en quelle année? Tu as l'année
pas. C'est en 2002. En 2002.
Ça devait bien planer. Hein,
oui, c'est ça. Et en présentation, il y avait Virginie Efira.
Ah ouais.
Ah ouais. Oui. La comparaison avec la France et ses moyens de... C'était quand même la première chaîne d'Europe en France, ça tient pas. Donc l'émission s'arrête malgré une tentative de reboot en flamand en 2005.
Oui.
Alors au Canada, la Star Academy avec un IE à la fin, c'est important. Parce qu'en France, normal. C'est Y, donc au Canada, c'est IE. Ça débarque en 2003 et après 2004, 2005, puis 2009 et 2012. C'est animé par Julie Snyder, qu'on a vu un petit peu en France, qui avait fait quelques émissions. En 2021, l'émission est même revenue à l'antenne. Mais la Starac, sous différents noms, est aussi présente en Grèce, en Inde, en Indonésie, en Italie, en Russie et dans 20 autres pays.
C'est Nikos qui présente en Grèce aussi?
Non, pas du tout. Il existe même un concours qui s'appelle Eurobest, puis qui est devenu Worldbest. C'est un peu comme l'Eurovision et ça regroupe les pays avec les participants des finalistes de la Starac.
Ah
oui. Et en 2003, TF1 l'a diffusé et Nolwenn est en arrivée deuxième. En deuxième position de ce concours donc international.
Elle a encore envie.
Nolwenn
Leroy. Et en 2004, c'est Élodie Frégé qui a gagné ce concours. Donc on a gagné le concours de tous les Starac du monde. Non. Et ben justement, dans un instant, on va entendre les gagnants des Starac françaises.
Je crois que Nolwenn Leroy allait arriver
dans
le studio.
Et ce sera à vous de les retrouver ainsi que leur année. Mais avant, eh bien, on va jouer avec le Graal. Donc le Graal, c'est le podcast qui vous fait découvrir en deux minutes des films, des séries et des musiques. Ce soir, c'est une série qu'il faut découvrir. Alors attention, c'est pas facile. C'est une vieille série animée. C'est un ovni télévisuel.
Salut, partons à la rencontre d'une série. Écoutez bien les indices pour en retrouver le titre. Soyez le plus rapide. C'est parti. Oh, vous ne devez pas beaucoup aller chez le coiffeur, hein. Vous n'avez que quelques poils sur le caillou, hein. Enfin, quelques plumes, je dirais. Même si votre espèce est des plus insolites. Il faut dire que vous ne venez pas d'ici. Votre dessin est d'y venir, remarquez. Hein? Comment? Gars? Oui, si vous voulez, mais encore. Bu? Zo? Me? Eh ben, ça va pas être simple de communiquer, hein. Les gibis, vos voisins me l'avaient dit. Vous êtes un petit peu limité. Par contre, ce que vous le faites bien, et tout le temps. Ben, ça doit être un peu pompant à la longue, non? En tout cas, vos apparitions animées de quelques minutes ont divisé la France en 1968. Vous êtes même revenu pomper encore en 2000. Mm-hmm. C'est Jacques, votre créateur, qui doit être fier. Avez-vous trouvé le nom de ce dessin animé surréaliste avec ces drôles d'oiseaux qui pompaient sans relâche? Je vous laisse encore quelques secondes. Il s'agissait des Shadocks, racontés par l'inoubliable voix de Claude Pieplu. À bientôt pour une nouvelle rencontre.
Ce n'est qu'en pompant que vous arriverez à quelque chose, et même si vous n'y arrivez pas, eh bien, ça vous aura pas fait de mal.
retrouvez-nous sur Question Graal, sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast.
C'était le Graal à retrouver sur radio-g.fr, rubrique Podcast Plus et quelquefois dans Topette. Allez, vous êtes toujours...
Il faut quand même avoir plus de 50 ans pour connaître ça.
Eh ben écoute, il y a Yann qui a découvert, c'était les Shadocks, c'est bien, bravo, sur un internet. Bonjour à Nikos aussi qui nous fait un salut les petits loups sur le chat. Voilà.
Salut
les petits loups. Salut les petits loups. En tout cas, merci. Vous pouvez nous écrire effectivement sur le chat de radio-g.fr. Vous êtes toujours dans DMT. Dans un instant, on retrouvera les chroniqueurs avec leur nouveau tiroir. Mais avant, on va parler un peu de musique et surtout en écouter. Et ça va être pour nous l'occasion de jouer. Alors, j'en ai parlé il y a un instant. Ça va être avec les gagnants français de la Star Academy depuis 2001. Il faut en retrouver donc le nom et l'année. Hein. Alors, ce sont que les gagnants. Alors, attention, certains sont faciles et qui sont encore connus aujourd'hui. Puis d'autres, ils ont disparu depuis longtemps. Donc, vous pouvez jouer de chez vous aussi hein, sur le chat radio-g.fr. Attention, voici le premier.
Dis celui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons, qui parle d'amour et d'hirondelle, de chagrin, de vent et de frisson.
Alors ?
Attends, c'est des gagnants ça ?
Ouais, c'est une gagnante, ouais, qui chantait là.
Bah, Magali Veil ?
Non, c'était en 2003.
Et Saïdi ?
Saison 3.
Et Saïdi ?
Non.
C'était
Elodie
Frégé.
Elodie Frégé qu'on a entendu. C'était elle qui chantait. Eh ouais. Allez, deuxième.
Jennifer.
Ah ouais, c'est Magali Vallée.
Ah merde, ça va aller. Vachement Jennifer.
C'était en quelle année de Magali Vallée ?
Oh bah.
Saison
2006.
2005, saison 5. Suivant. Alors, vous l'avez ?
Non ? Je vois son visage. C'est Liu ?
Oui, alors, pas loin. 2006, saison 6, Cyril. Donc. Cyril Sinelu.
Sinelu, voilà.
Eh ouais. Ah bah oui, eh, il a gagné la Starac. Suivant. Alors, Nolwenn Leroy. Oui, bravo, c'est dans quelle année ?
2003.
2002, saison 2, Nolwenn Leroy. Alors, le suivant, si vous le trouvez, vous êtes très fort.
Quatre et banal cliché, dénouement funeste, 3-2 qui s'en vont, ça fait moi qui...
C'est pas celui qui est mort ?
Non, non.
Il y en a un, mais je sais pas si c'est lui.
Quentin Mossiman ?
Non.
Mossiman ? Bah c'est Fury.
Non. Alors c'était en 2008, pour la saison 8, donc c'était, il s'appelle Michael Rea. Michael Rea. Voilà, on connaît pas.
C'était pas sur TF1, c'était sur...
Si, une saison 8, ouais.
C'est plus dans mon tiroir, c'est dans mon congèle, là.
C'est ça. Le suivant.
Mossiman.
Ah bah voilà, oui. C'est Mossiman, évidemment. 2007, saison 7. Allez, suivant.
Je rêve son visage décliné son... Je l'imagine habitant
Jennifer, oui. Ah, non, c'est Jennifer.
Si j'avais su parler, comment
c'est,
lui faire
c'est, aller. C'est les chansons des finales, ça?
Non, pas forcément. Ils ont, c'est des chansons qu'ils ont fait.
On a oublié un pour l'instant.
Alors, attention, celui-là, c'est pareil. Alors, si vous réussissez à la trouver, vous êtes formidable. Hein.
Allez, tu vois comme tu sonnes. Et du cœur à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner.
Bon là, c'est la version, c'est la version 2012, donc c'est-à-dire sur Énergie 12, c'est la saison 9. Elle s'appelle Lorraine Bourvon.
Ok.
Donc autant dire que...
D'accord. Oh, bonjour à Lorraine.
Du tout, du tout.
Bonjour à Lorraine.
La suivante, vous la connaissez.
Je suis malade, complètement malade, comme ma mère sortait le soir.
C'est pas Frégé.
C'est la dernière là, Anisha.
C'est Anisha Joe, évidemment, en 2022, c'est la saison 10. Suivant.
Même Paris, 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 crève d'ennui. J'ai des en rire pour ne plus pleurer.
Alors, Yann, effectivement, tu as trouvé. C'était en 2004, par contre, la saison 4, et c'était Grégory Le Marchal.
C'est lui que je pensais tout à l'heure. Ouais. C'est vrai que...
Alors, le suivant.
Il se marre tout seul.
Allez-y.
J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris. Merci.
Alors, en fait, t'en as oublié un. Alors, je pense que c'est lui. Non.
Non.
Michel.
Raisonnable. Michel n'a pas gagné.
Elle n'a pas gagné. Je ne pense pas. J'étais persuadé qu'il avait gagné.
Non, non. Et là, lui, là, vous entendez?
Je ne sais pas.
Oh, quand même. Bon, ok, ok. Il n'a pas vraiment gagné encore. Hein. Il s'appelle Pierre Garnier.
Ah, c'est cette année.
Mais ouais, c'est celui de cette année. Pierre Garnier, on ne sait toujours pas hein, s'il sera vainqueur. Même si, fait étonnant quand même, le principe de l'Astarac, c'est que ce ne sont que des prénoms pendant toute l'Astarac. Et c'est qu'une fois qu'ils sortent de l'Astarac, ils sont des noms, des prénoms et des noms. Et cette fois-ci, Pierre Garnier est déjà présenté comme Pierre Garnier.
Ah,
donc on met un peu la charrue avant les bœufs quand même. Hein.
C'est marrant, ils ont leur code, donc du coup là ils transgressent un petit peu leur...
Je sais pas qui a fait fuiter ou qui...
Ça a peut-être fuité, du coup ils reprennent son nom.
Ouais, en tout cas.
Alors, on connaissait pas du tout leur nom de famille, genre c'est des...
Non, c'est Élodie, Magali, voilà, on connaît pas leur nom de famille pendant l'émission et c'est qu'après on sait.
C'est voilà. Génial Bruno que le CA de Radio G a fait un AVC.
Julien a fait un AVC, ouais, pour la programmation. Alors, en 2001, la finale avait attiré 51% du public devant la télé, soit près de 12 millions de personnes. Ça fait rêver quand même.
Mais c'était la première.
Oui, la première.
Ouais, mais...
51%. Enfin, aujourd'hui, on oscille entre 2 et 3 millions et on compte. Ouais. On est content. Hein. En tout cas, la tournée a déjà plus de 55 dates et c'est pratiquement complet. Les castings pour la saison 2004 sont ouverts. On a inscrit Florian. Tu étais d'accord.
Pour la saison 2004.
2024.
Ah oui.
Ouais. Alors moi, je suis très heureux pour moi, mais par contre, pour le public, moi,
ça pourrait être sympa.
Je pense qu'il est hyper décevant, c'est qu'ils font plein une tournée avec plein de dates et pas à Angers. Il y a pas.
Ouais, ils viennent pas à Angers.
Il y a Tours, Le Mans, Nantes, mais Angers, n'y a plus.
Bah ouais.
On n'est pas au niveau des autres villes non plus.
Alors, il n'y a pas que les vainqueurs de l'Astarac qui font une carrière. On peut citer Jean Pascal, Sophia Issaidi, Olivia Ruiz, Emma Domas, Michal, et
Flo. Ah non, pardon, il n'a pas encore fait l'Astarac.
Pachi qui fait une carrière dans...
Ah oui,
aussi.
L'écriture et la production. Après, c'est pas, ils chantent pas forcément, mais en tout cas, ils sont aussi dans la prod derrière aussi.
Et là, de toute façon, ça t'ouvre un monde.
Oui, c'est ça.
De l'an dernier, il n'y a que Louis Albi qu'on entend
un petit peu. Louis. Je ne lui écoute pas non plus.
Mais oui, moi, je suis largué depuis le début de la chronique, je t'avoue. Autant je suis une grande gueule, dès qu'on me file un micro, je parle, mais alors là, j'ai fermé ma gueule tout le long, je n'avais rien.
Bon allez, un petit extrait musical quand même, juste le temps de reprendre ses émotions. C'était le vainqueur de 2007. Il a fait les arrangements de l'hymne de l'émission en 2002. Mais là, on le retrouve avec un de ses titres à lui. C'est Moziman avec Dancing on My Own. Moziman avec Dancing on My Own. Vous êtes toujours dans DMT sur Radio G, l'émission qui vous donne le pouvoir. Rendez-vous sur le site radio-g.fr, sur votre smartphone ou votre ordinateur. Accédez à la page des votes pour pouvoir juger en temps réel les chroniqueurs et les chroniques qui vont suivre. Nous ouvrons donc à nouveau les tiroirs de nos chroniqueurs. Olive, tu avais une autre série à nous proposer.
Oui. Une série d'ailleurs, la deuxième partie est sortie hier. C'est une série sur Canal+ qui s'appelle D'argent et de sang.
Ok.
C'est encore très très gay.
Ouais, dis donc. Ouais, ce soir, d'habitude c'est Florian qui nous fait les morts, mais.
Ah, il y a eu deux grandes séries françaises. Il y a eu Sang, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Et puis il y a eu D'argent et de sang, qui est une série avec Vincent Lindon, Ramzi Bedia, Nils Schneider. C'est une série de Xavier Giannoli, qui avait déjà fait il n'y a pas longtemps Illusion perdue, un film qui avait eu le César du meilleur film. Alors, qu'est-ce que ça raconte cette série ? Là aussi, c'est tiré d'une histoire vraie. On se situe dans les années 2008-2009. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu une incroyable fraude à la TVA sur les quotas carbone. Je ne sais pas si vous avez vu ça.
Non.
Bref.
Non.
Parce que les quotas carbone, au début, ça commence avec une chronique sur les drapeaux. Tu vois, c'est un peu le même niveau.
Donc, il y a eu des escrocs français qui ont détourné des centaines de millions d'euros rien qu'en faisant un montage juridique, en créant des sociétés fictives. Et en fait, elles obtenaient des remboursements de crédit de TVA que leur donnait la Caisse des dépôts. Et c'était gigantesque. Ils ont détourné au moins plus de 100 millions d'euros. Tout ça aux frais de l'État français. Voilà. Donc, c'était deux escrocs de Belleville. Il y en a un qui est joué par Ramzi Bedia, de Eric et Ramzi.
Oui.
Qui est juste incroyable dans la série. Alors franchement, j'ai jamais trop apprécié Eric et Ramzi.
Tu l'as vu que dans du comique ou pas ?
Bah justement, là,
non. Justement,
non, mais
là,
non, mais toi, tu,
avant,
tu
l'avais vu que dans du comique. Quoi. Ouais. Mais là, en fait, il a une tchatche incroyable. Quoi. Enfin, il joue le rôle d'un escroc de Belleville, grande gueule, incroyable. Quoi. Enfin, franchement,
très bonne série.
Très, très bonne série. Et puis, donc, il y avait des escrocs de Belleville, et puis il y avait un trader issu des beaux quartiers qui est joué par Nish Tedder, et à eux seuls, ils ont détourné des millions d'euros. Alors, évidemment, il y a Vincent Lindon qui joue le rôle d'un douanier, qui est le chef des douanes, qui va essayer de les arrêter, et il va essayer à un moment donné, ça c'est dans la deuxième partie qui est sortie hier, qu'ils soient un petit peu en bisbille tous les trois, et ils vont peut-être se tuer tous ensemble, quoi. Enfin, je veux dire,
ah oui, d'accord.
Voilà, l'idée, c'est voilà. On n'arrive pas à les choper, on va faire en sorte qu'ils s'entretuent. C'est tiré d'une histoire vraie, quand même.
Ok.
Mais c'est assez stupéfiant.
Donc sur Canal Plus, cette fois-ci.
Ouais, sorti hier.
Très bien. Intéressant.
C'est vraiment très intéressant.
Joe, un jeu vidéo.
Oh, tu spoiles tout.
Oui, bah, oui, si, quand je vois ça sur la table.
Effectivement,
moi,
dans mon tiroir, j'ai
interdit au moins de 18 ans, quand même.
Oui, alors, ça, personne ne le fait. J'ai retrouvé dans mon tiroir ce jeu qui s'appelle Assassin's Creed Mirage. Alors, c'est plus un prétexte pour vous parler de la saga entière, parce que de base, je voulais vous parler du jeu. Mais en fait, il y a tellement à dire sur la saga en elle-même. Alors, il se trouve que c'est une coïncidence, mais c'est aussi le 13e opus, tout comme la 13e soirée de DMT, de la série Assassin's Creed. Alors, je sais pas si vous connaissez, même si vous jouez pas nécessairement aux jeux vidéo.
Oui, moi, je connais.
Ok, oui. Vous avez déjà entendu parler,
oui,
au moins?
Oui.
Ok.
Oui.
Est-ce que...
On joue un assassin, en fait.
Alors, tu joues un assassin, mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que les assassins, c'est pas juste des tueurs, c'est une faction. Et en fait, de base, ça te raconte une lutte à travers le temps entre deux factions, les assassins, et les Templiers. Sachant que le premier jeu de la série, qui s'appelait sobrement Assassin's Creed, est sorti en 2007 ou 2008, et qui se passait au 12e siècle, à peu près, au temps des croisades, et on jouait donc du coup une faction d'assassins contre les Templiers. Et ce qui est très intéressant à travers cette saga, c'est que, alors, même si à chaque fois, donc il y a 13 jeux officiels, mais il y en a plein d'autres, des petits jeux à côté, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur cette série. Il n'y a jamais eu de grosses, selon moi, innovations techniques réelles dans les jeux.
Il est beau, quand même.
Non, mais les jeux sont très beaux, mais il y a des choses où tu te dis, vraiment, ils se sont limités à ce qu'ils pouvaient faire, et voilà. Même si c'est une série que j'adore réellement. En fait, ce que j'aime le plus dans cette série, c'est vraiment l'intérêt historique et culturel. Parce que les équipes qui travaillent, donc c'est les équipes d'Ubisoft et notamment les équipes de Ubisoft Montréal et de Montpellier, qui travaillent sur l'univers culturel, les us et coutumes de chaque pays, de chaque ville qu'on va découvrir, c'est souvent très très réaliste et à chaque fois ils vont vraiment chercher des choses où au début il y avait des limites techniques avec les premiers jeux qui étaient sur PS3 où tu pouvais pas faire une ville gigantesque et tout montrer. Au fur et à mesure du temps, ils ont agrandi les cartes et ils ont mis des détails dans certains lieux. Enfin, je pense notamment à un des jeux qui pourtant est pas le plus apprécié, mais qui se passe à Paris pendant la Révolution française. Et là, vraiment, si juste tu peux même ne pas jouer au jeu sur la partie narration.
Se promène juste,
tu te promènes.
C'est un open world, on va où on veut.
C'est un open world. D'accord. Et tu découvres Paris à l'époque de la Révolution française. Et là, tu te fais, tu te prends une claque. Alors déjà visuelle et d'ambiance, parce que vraiment, ils ont pensé à plein de choses autour de comment étaient les gens autour. Tu entendais des gens parler, tu entendais des sujets, tu entends plein de choses. Il y a une vraie vie et je trouve que c'est ça qui est vraiment prenant à chaque fois dans ces jeux-là, parce que t'apprends des choses sur l'histoire, tu vis une histoire créée, narrative qui est fictionnelle, mais qui touche à certaines certains événements historiques et certains personnages historiques.
Chaque jeu représente une ville spécifique.
Pas toujours une ville spécifique, mais souvent une époque. C'est-à-dire qu'il y a eu plein d'époques et notamment, alors là, je parlais des personnages historiques, mais alors j'en avais noté quelques-uns, mais
Il y a eu l'Égypte.
Alors il y a l'Égypte antique effectivement, mais on croise notamment en personnage historique Robert de Sablé qui était un Templier, Léonard de Vinci, Barbe Noire, Al-Mahani. Je fais le malin parce que je l'ai appris récemment. C'était un mathématicien à Bagdad au 9e siècle. Washington, Pythagore. Vraiment, on croise plein de gens historiques et à chaque fois, alors évidemment c'est du fictionnel, mais on retrouve leurs travaux, on retrouve leur implication dans les événements historiques, et il y a toute une partie sur le deuxième jeu Assassin's Creed qui se passe à Florence en Italie, et on croise le Léonard de Vinci dans un de ses ateliers, et il y a toute une histoire où il crée des armes avec sa technologie pour les assassins, et c'est vraiment bluffant à quel point ils sont impliqués dans le fait de nous mettre dans l'époque, dans le réalisme.
On peut l'utiliser à l'école, si on joue pas.
Même ça a été utilisé à l'époque, à l'école justement.
Une version légère, sans.
Ouais, exactement. Tu parlais de l'épisode qui se passait en Égypte antique. Ouais. Donc c'est celui qui s'appelle Assassin's Creed Origins, et il a une carte vraiment gigantesque. Et il y a un mode qui avait été créé justement pour l'éducation, où tu pouvais te balader et voir certains monuments ou voir certaines histoires sans qu'il y ait de combat, de sang, quoi que ce soit. Juste, tu pouvais te balader et apprendre des choses. Et tu peux faire ça dans tous techniquement, ou vraiment, voilà.
La bande son, elle est bonne au niveau du musique.
Alors, je peux pas te mentir, elle est exceptionnelle. Moi, c'est mon réveil depuis des années, la musique d'Assassin's Creed 3. Donc vraiment, la musique est vraiment très bonne.
Ça va peut-être donner des idées à Robin. Robin, c'est un animateur qui est dans Générique le dimanche après-midi. Ouais. Et il passe des bandes-son de jeux vidéo.
Et ben,
donc voilà, s'il nous écoute, on lui dit, c'est peut-être une idée de passer...
Est-ce qu'il l'a pas déjà fait?
Il l'a peut-être déjà fait. Moi, j'ai pas souvenir, mais
parce que ça reste quand même des musiques qui sont très très marquantes et qui sont vraiment très très bien.
Il faudrait qu'il t'invite à ce moment-là pour parler du jeu aussi. Il en a déjà parlé, on a sur le chat. D'accord.
Ah, okay. Voilà. Ouais, ça m'étonne pas. C'est vraiment des très très bonnes
choses. Faire apprendre l'histoire à travers
jeux vidéo.
Quand c'est vraiment véridique.
C'est véridique. Et outre l'histoire, moi, alors vraiment une petite anecdote comme ça. Moi, je me rappelle que j'avais un contrôle de latin quand j'étais petit au collège, et j'avais appris les 7 collines de Rome grâce à Assassin's Creed Brotherhood qui se passait à Rome. Et tu apprenais, je devais
tester
les 7 collines. Et voilà.
Non, mais du coup, c'est quoi?
Alors, je les ai plus aujourd'hui, je t'avoue. Non, mais j'ai appris énormément de choses.
Florian, il a appris toute sa sexualité avec les jeux vidéo aussi. Hein.
Avec Assassin's Creed, la lame qui sort comme ça?
Bah écoute, c'est très intéressant. Allez, on va retrouver à nouveau le Graal. Cette fois-ci, c'est un film qu'il faut découvrir. Nice, il a été primé. Jouez avec nous sur le chat de radio-g.fr en donnant vite la réponse.
Salut, partons à la rencontre d'un film. Vous avez 2 minutes pour en retrouver le titre en écoutant le personnage principal se présenter. Soyez le plus rapide. C'est parti.
Bonjour, je suis le père d'une famille pauvre qui vit dans un sous-sol insalubre. Ma femme, mon fils et ma fille sont tous au chômage et nous survivons en pliant des boîtes à pizza pour une misère. Nous n'avons pas les moyens de nous offrir un logement décent. Un jour, notre vie a basculé quand ma fille a eu l'opportunité de donner des cours d'anglais à la fille d'une famille riche. Grâce à de faux diplômes et à son charme, nous avons réussi à nous faire embaucher, les uns après les autres dans cette famille, en nous faisant passer pour des personnes qualifiées et sans lien de parenté. Nous avons profité de leur naïveté et de leur générosité. Nous avons même réussi à squatter leur luxueuse maison pendant leur absence, en faisant comme si nous étions chez nous. Mais notre rêve a tourné au cauchemar quand nous avons découvert que nous n'étions pas les seuls à profiter de la maison aux dépens des propriétaires. Nous avons alors été entraînés dans une spirale infernale de violence et de trahison qui a fini par détruire nos deux familles. Même Bégon Vert ou Bégon Jaune ne pourrait maintenant me déloger du sous-sol.
Avez-vous découvert ce film sud-coréen de 2019 qui a remporté une Palme d'Or à Cannes? Je vous laisse encore quelques instants pour trouver. Il s'agissait du film Parasite. À bientôt pour une nouvelle rencontre. Retrouvez-nous sur Question Graal, sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast.
Bravo à Yann qui a trouvé sur le chat radio-g.fr. Olivier a trouvé aussi. Il avait trouvé par
Flo film. Flo,
il avait pas
le titre. Je suis nul en nom de film. J'arrive pas du tout à retenir.
Bon, en tout cas,
Drapeau, t'es bien meilleur.
On va voir si en chronique mystère, vous êtes meilleur.
Allez.
C'est l'heure de la chronique mystère.
Alors donc, pendant la musique tout à l'heure, vous avez eu une petite feuille avec une petite chronique comme ça, et il va falloir nous la vendre bien. Donc on va commencer avec Olivier, quelle est ta chronique ?
Alors pourquoi la rue de la Roue à Angers s'appelle comme ça ?
Ah, bonne question.
Alors, que les gens avaient trop bu, puis...
Ouais, oui, c'est ça, Roue.
Surtout, il faut dire comment elle a écrit, parce que moi, oui, mais pendant très longtemps, moi j'ai entendu la rue de la Roue. Ah, je crois que c'était Aro, genre A2ROW.
C'est R-A, plus loin, R-O-E,
et Tréma.
Et Tréma.
Et alors pourquoi ?
Alors, il y a 900 ans, cette grande rue est connue sous le nom de rue Saunière, ou rue des Courailleux, des noms en rapport avec les entrepôts de sel sur le port voisin. Mais finalement, c'est un abbé qui lui donnera son nom, l'abbé de la Rouée. Il avait en effet un hôtel particulier dans cette rue. Alors, il n'y habitait pas, c'était en quelque sorte son Airbnb. Alors, dans la rue, on voyait du beau monde et pas toujours des religieux.
L'Airbnb.
Ah, j'ai pas compris. C'est nu. La rue est avec ses 300 mètres dans le top 5 des plus grands dangers. Et elle n'est devenue piétonne qu'en 2010 pour laisser passer le tramway sur une voie unique utilisée en alternance pour la montée et la descente. Quant à la prononciation, bien que logiquement on pourrait dire Rouée, les Angevins, eux, disent rue de la Roue.
Évidemment, très bien. Eh ben, c'est intéressant.
C'était vraiment très intéressant.
Oui.
S'il y a un tréma sur le E, c'est qu'on ne prononce pas normalement.
Non. Bon, ah bon ?
Bah oui.
Ah, ça ne savais pas. Hein ? Ben non, Rouée, on pourrait dire E.
Alors, quand il y a un tréma, on ne prononce pas.
Non, au contraire, il n'y aurait que le E, on pourrait dire Rouée.
Ouais.
Et si on met
un tréma, quand tu mets un tréma, tu ne dois pas prononcer la lettre en dessous ?
Noël, alors Noël, tu fais Noël.
Ah non, mais Noël, c'est...
Alors pour info, moi j'ai un tréma dans mon nom de famille, et non, pour Noël, le coup, c'est...
Oh, ça va être compliqué cette histoire. Bon, Florian, ta chronique.
Oui, moi je vais vous donner une technique imparable pour vous déboucher le nez.
Ah, ça, eh ben, en ce moment, c'est ce qu'il faut.
Alors, le nez se bouche en général quand on est enrhumé, c'est-à-dire qu'un virus ou une bactérie vient te rendre visite.
Ouais.
Donc c'est normal, les muqueuses se gonflent pour empêcher le virus d'aller plus loin dans le corps.
Ah, mais c'est pour ça que ça se bouche, c'est pour éviter que ça aille plus loin.
En fait, il y a du
virus.
Oui,
mais on peut plus respirer.
Mais au moins, tu meurs pas. Tu meurs pas du virus. Bon, par contre, tu meurs d'asphyxie.
C'est une façon de se défendre, du coup, par rapport
au. Heureusement que ça bouge pas la bouche.
Non. J'ai eu peur.
Alors, mais si on a le nez bouché la nuit seulement, c'est peut-être que l'air de notre chambre est trop sec ou que les acariens et les pollens de notre oreiller font croire à une attaque virale. En tout cas, le corps se défend comme ça. Alors, il y a des médicaments pour décongestionner tout ça, mais une nouvelle étude vient de démontrer qu'on pouvait libérer les voies nasales en...
Ah, en quoi ?
En faisant l'amour.
Non !
Et si...
Mais j'ai le nez bouché d'un coup, là.
Alors, c'est pas sûr.
Attention, il y a la migraine.
T'as écrit la chronique, toi.
J'ai le nez bouché. Tout d'un coup, j'ai le nez beaucoup mouché ce soir. Hein.
C'est un message, effectivement.
Tu prends du stérimar, comme tout le monde.
Ah, mais en faisant l'amour, ça...
Alors, c'est pas forcément très agréable de faire avec le nez bouché, quand même.
Mais parce que ça doit faire mal, parce que ça dilate vachement le nez, quand même.
Bah, faire la bourre, je sais pas.
Je pense que oui.
Faire l'amour par le nez, ça doit faire mal.
Ah, mais je ne sais pas.
Ah, non, je croyais qu'il fallait faire ça.
On va pas aller plus loin. C'était très intéressant. On y va. Joe, ta chronique mystère.
Alors, est-ce que vous savez d'où viennent les trois bandes du logo Adidas ?
Alors là, je sais pas. Non. Trois bandes, c'est le logo, effectivement, c'est la marque.
Ouais, alors en fait, imaginez deux frères allemands en 1918. Donc c'est Adolf et Rudolf Dassler.
Adidas, du coup ?
Il y a de l'idée, bien vu. Ensemble, ils créent une entreprise de chaussures et ils équipent, entre autres, les athlètes des JO de 1928. Alors pendant la guerre, Rudolf, il part au front. Tandis que Adolf, lui, il bosse avec l'armée américaine.
Ah oui, donc il y en a un qui est avec les Allemands et l'autre avec les Américains.
Ah là, voilà, donc lors des retrouvailles, vous imaginez la super ambiance au repas de Noël. Donc c'est la guerre, même dans la famille du coup. Et chaque frère décide alors de lancer sa propre marque. Adolf, donc Adi Dassler, crée Adidas. D'accord. Et Rudolf, il crée un concurrent.
Nike.
Non, Puma. Puma.
Puma, oui.
Et voilà. Donc, quant aux bandes, elles sont liées à un produit qui a fait le succès de la marque. C'était trois lacets à nouer sur le côté, d'où les trois bandes. Alors,
d'accord.
La marque Adidas, ça va être vendu puis revendu, mais elle sera plus numéro un. C'est Nike qui va lui rebattre les cases.
Ok. C'est intéressant.
C'était vraiment très intéressant.
C'est le moment maintenant de la chanson improbable. Alors, elle a été remise au goût du jour en 2023 grâce à un film. On y parle de poupée. Ouais, les poupées Barbie. Alors, Barbie Girl est une chanson du groupe scandinave Aqua, sortie en 1997 en tant que leur troisième single. Il a cependant été leur premier titre à sortir au Royaume-Uni et en France. Barbie Girl s'est vendue à plus de 8 millions d'exemplaires dans le monde entier et reste aujourd'hui encore l'un des plus grands succès du groupe. Le sujet et les paroles de la chanson ont entraîné des poursuites judiciaires de la part de Mattel. Aqua répondit que Mattel avait imputé sa propre interprétation aux paroles de la chanson. Non, non, parlez pas de votre poupée. Et la justice quand même a tranché en faveur d'Aqua, défendant le droit de parodie. Ironie de l'histoire, Mattel utilise depuis 2009 la rythmique de Barbie Girl pour ses publicités télé. Alors, les paroles de la chanson sont très spirituelles, hein, comme on peut s'en douter. Salut Barbie, salut Ken, veux-tu venir faire un tour en voiture? Bien sûr Ken, monte. Je suis une fille Barbie, dans un monde de Barbie, la vie en plastique c'est fantastique, tu peux brosser mes cheveux, me déshabiller n'importe où, la vie est ta création. Voilà, c'est sympathique.
Attends, la chanson improbable, c'était toi qui la chante?
Là, c'est les paroles de la chanson.
Mais je crois que c'était toi qui allais nous la chanter.
Non, mais c'était parce que c'est en anglais, mais vous voyez que quand même, c'est important d'avoir la traduction française. Allez, un petit extrait, voici la chanson improbable du jour. Barbie Girl, par Aqua.
Hi, Barbie.
Hi, Ken.
You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Barbie girl, in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic.
Let's go party.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a blonde bimbo girl in the fantasy world. Dress me up, make it tight, I'm your dolly.
You're my doll, rock and roll. Feel the glamour and pink. Kiss me here, touch me there.
La Barbie Girl, d'Aqua, ça bouge bien quand même.
C'est
même
trop bien.
Ouais, c'est mieux que le film. Allez, c'est la fin de ce numéro de Dans mon tiroir, l'émission qui vous donne le pouvoir. On a parlé de la Star Academy. Ce soir, sachez que Radio G a aussi son concours de chansons, c'est Radio Vision, et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 avril. Donc si vous êtes artiste et que vous voulez que votre composition originale passe à la radio, inscrivez-vous gratuitement sur radiovision.fr. On va se quitter sur le nouveau titre des Enfoirés, sorti il y a quelques jours. Alors autant leur donner un petit peu de sasem. Les concerts ont lieu en ce moment, la diffusion sera en mars prochain sur TF1. Le titre est composé par les chanteurs Patrick Bruel et Icar et s'intitule Jusqu'au dernier. On va l'écouter dans un instant. Merci aux chroniqueurs du soir. Merci Joe.
Merci.
Qui a réalisé également cette émission. Merci Olivier.
Merci.
Merci Florian.
Merci, bonne soirée.
On se retrouve dans 15 jours. Hein, et vous pouvez également nous écouter sur le site radio-g.fr. Et n'oubliez pas, avec Dans mon tiroir, vous avez le pouvoir.
C'est vrai qu'on s'amuse, les années nous accusent d'une énième chanson. 35 ans déjà, qu'aujourd'hui plus le droit d'avoir faim, d'avoir froid.
On a tout essayé, ou presque, ou presque encore. Allez,
alors on va crier qu'on reste,
nous on reste jusqu'au dernier.
The mic and get dumb. Yo, praise me not for being simply what I am. Born in L-O-N-D-O and sound American. You dig exactly where I'm coming from. You want righteous rhyming, I'ma give you some. To enable you to age yourself and get paid. And the material that has no meaning, I wish to play. Pay me every bit of your attention. Like mother, like daughter, I would also like to mention. I wish for you to bring me through the rhythm. Of which is now systematically given. Desperately stressing, I'm the daughter of a sister. Who's the mother of a brother, who's the brother of another. Plus one more, all four. Have a job to do, we do, and a respect due to the mother who's the root of it. And next up is me, the M-O-N-I-E-L-O-V-E. And I'm first, cause I'm a L-A-D-I-E.
Contact and in fact, the style it gets harder. Cooling on the scene with my European partner. Laying down track after track, waiting for the climax. When I get there, that's when I tax the next man or the next woman. It doesn't make a difference, keep the competition coming. And I recite the chapter in verse. The title of this recital is Ladies First.